Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 9 avril 1986.
Nous continuons la philosophie pratique, c'est-à-dire l'éthique. Je vous avais dit, et je reprends, que toujours, il faut que nous gardions ces deux aspects extrêmes de l'intelligence. Le point de vue métaphysique, philosophie première, et puis le point de vue éthique, l'alliance de l'intelligence avec ce qu'il y a de plus profond dans notre volonté, notre capacité d'aimer, d'aimer une personne, notre bien. L'intelligence liée à l'amour est au service de l'amour. Alors j'allais presque dire, voyez, comprenez bien, que l'éthique montre comment l'intelligence qui en nous est source d'autonomie accepte de laisser passer devant l'amour. Donc il y a toujours un ces deux choses surtout pas vous jeter. Oui, vous redécouvrez là, face à Nietzsche, et les deux aspects que Nietzsche dit, qu'il ne peut pas supporter, la métaphysique de l'être et la compassion. Une véritable éthique aboutit nécessairement à comprendre le primat de l'amour. Et le primat de l'amour, concrètement pour nous, dans un climat chrétien, c'est la compassion. Au plan purement philosophique, je ne peux pas le dire. C'est là où on voit qu'il y a une éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, ça montre le primat de la compassion. Il n'y a pas de métaphysique chrétienne, mais il y a une éthique chrétienne. Et c'est très curieux de voir ces deux oppositions, parce que ça nous fait comprendre le primat de l'être et le primat du bien. Mais voyez bien que le primat de l'être est affirmé objectivement. Le primat du bien est affirmé subjectivement. Et alors vous retrouvez ici cette chose étonnante, le réalisme de la métaphysique implique l'objectivité de la connaissance. Le réalisme de l'éthique implique le primat de la subjectivité de l'amour. Et par là, vous pouvez répondre à ce dilemme devant lequel on est. Et que le bon père Dubarle voulait résoudre au niveau métaphysique en disant nous devons pouvoir avoir une métaphysique à la fois aristotélicienne et cartésienne. En essayant de comprendre comment une métaphysique peut être une métaphysique du primat de l'objet et en même temps une métaphysique du primat de la subjectivité, donc de la conscience. Vous voyez qu'on ne peut pas dépasser la distinction objet-sujet, mais on peut comprendre qu'il y a en nous, au plus intime de notre vie, l'exigence du réalisme objectif de la métaphysique et l'exigence du réalisme subjectif de l'éthique. Et quand je dis réalisme subjectif de l'éthique, comprenez bien, c'est pas en opposition avec l'objectif, avec l'attitude objective de la métaphysique. C'est au contraire en complémentarité. Il n'y a pas de dialectique d'opposition entre objet et sujet. Mais il y a à comprendre que la connaissance spéculative, dans son réalisme, respecte le primat de l'objet. Et la connaissance éthique, la connaissance amoureuse, c'est-à-dire l'amour, dans son réalisme, respecte le primat du sujet. C'est très étonnant, ça. Et quand vous saisissez les deux, vous pouvez comprendre comment, si on ne saisit plus la distinction entre philosophie première et éthique, on voudrait faire une dialectique au-delà de l'objectif et du sujet. Au-delà de l'être et du bien. Or, il n'y a rien au-delà de l'être. Il n'y a rien au-delà du bien. Donc, l'éthique, c'est capital pour nous. Hein. Considérer que les deux démarches sont capitales, c'est très important pour nous parce que nous entrons en philosophie par l'éthique. Nous entrons en philosophie par la métaphysique. C'est les deux extrêmes. Normalement, je dis pour quelqu'un qui entre noviciat, normalement, nous avons plus. façon telle qu'on ne sait plus où on est, si ce n'est dans l'être qu'on aime, la personne qu'on aime. C'est ça le problème de l'expérience de l'amour. On est délogé. C'est jamais drôle d'être délogé. Et c'est plus fort que tout. C'est une force, surtout quand la passion s'y mêle. Or, dès qu'il y a amour, il y a passion. C'est la très grande différence avec l'intelligence. L'intelligence dépasse très vite les passions. Pour être l'intelligence, l'amour ne dépasse jamais la passion. Mais l'amour spirituel doit assumer les passions. Alors, quand elle les assume, elle les dépasse. Mais elle les dépasse en les assumant. Tandis que l'intelligence dépasse les passions en les laissant de côté. Attends un petit jour, ah bonjour, bonjour, je sais ce que tu es, je dépasse. Alors l'intelligence s'abstrait des passions. Elle se sépare des passions. C'est pour ça qu'on comprend très bien que dans le stoïcisme, c'est une attitude intellectuelle qui méprise les passions. Le philosophe ne méprise pas les passions. Il sait ce que sont les passions. Il les situe. Et la métaphysique situe ce que sont les passions. Tandis que l'amour spirituel assume les passions. C'est très différent. Et c'est très intéressant d'avoir ce double regard. Parce que c'est toute la zone intermédiaire de notre psychisme. Notre psychisme, il est passionnel. C'est pour ça que dès qu'on touche le psychisme, il y a des réactions violentes, du concupiscible et de l'irascible. Alors il y en a, chez certains, l'irascible dépasse en disant « Ah, touchez pas !» Ça c'est mon domaine. C'est l'irascible qui se défend. D'autres, le concupiscible dépasse « Ah, enfin quelqu'un qui s'intéresse à moi !» Alors on embrasse le psychologue, enfin quelqu'un qui s'intéresse à toi. C'est très curieux de voir ces doubles réactions, qui sont très violentes, et qui sont d'ordre du psychisme passionnel. On se défend, ah non, m'y touchez pas, ça c'est mon domaine. Hein. C'est vrai, c'est votre domaine. Parce que les passions c'est toujours très individuel. Hein. Très très individuel. On est passionné très différemment pour la cave ou pour le grenier. Ordinairement pas pour le premier, parce que c'est l'accueil, ça. Mais la cave, on n'accueille pas. On fait descendre l'ami qui doit prendre le bon vin. C'est très très particulier, ça. Et le grenier non plus. C'est curieux, mais il faut sentir ça. Il faut le sentir, parce que la philosophie doit nous donner une lucidité vis-à-vis de nous. Une lucidité philosophique qui n'est pas du tout une indifférence, pas du tout. Et on doit comprendre tout ce domaine psychique, qui est le domaine passionnel et imaginatif. Et quand je dis imaginatif, je ne diminue en rien le domaine passionnel. Les passions sont toujours liées à l'imaginaire. Les passions aiment l'imaginaire. Alors, il ne faut pas que le réalisme tue l'imaginaire. Il faut que le rêve situe l'imaginaire. Parce que si vous avez une haine contre l'imaginaire, l'imaginaire augmente. Il se venge. Alors il augmente. Tandis que si vous caressez l'imaginaire, disant, je te connais. C'est vrai, c'est un pur sang. Je te connais. Il faut caresser le cheval avant de le monter. Parce que si vous ne le caressez pas, ça n'ira pas. Mais vous le caressez, ma bonne bête, je te connais. Et puis on lui parle. Et puis on lui dit, alors à ce moment-là, ça va. Il faut situer l'imaginaire. Savoir que l'imaginaire est lié à tout notre psychisme. C'est notre psychisme, l'imaginaire. C'est notre psychisme. Notre source psychisme est toujours lié à l'imaginaire et au passionnel. Et les deux sont impliqués l'un dans l'autre. Alors, la philosophie analyser les passions, doit comprendre la zone imaginaire, doit savoir si le concupiscible ou l'irascible dépasse en vous. Oui, c'est un regard, ça, lucide qu'on a sur soi. Et le noviciat est un lieu magnifique. Le noviciat qui se prolonge après est un lieu magnifique où on doit analyser notre concupiscible et notre irascible. Et savoir que de fait, il y a pour chacun d'entre nous des lieux qu'il ne faut pas toucher. Et si quelqu'un d'autre se met à toucher, alors on réveille la mauvaise bête qui est en nous et qui mord. Notre irascible, notre irascible, il est méchant. Il est très bon. Tant vous savez bien le prendre, autrement il est mort. Avoir de bonnes dents, ça fait partie de l'irascible. Avoir des dents de lait, c'est triste. À 20 ans, on a encore des dents de lait. Elles sont pas encore tombées. Et les vraies dents ne sont pas encore. Ça arrive, ça, ça arrive. Il y a des gens qui jusqu'au bout font des dents de lait. C'est quand le concupiscible à tout prix et que l'irascible n'est pas arrivé suffisamment fort. Mais quand l'irascible détruit le concupiscible, c'est effrayant. Alors vous mettez des muselières et le permettre avec une muselière. Attention, vous avez la rage. Alors dès que vous avez la rage, vous allez contaminer tout le reste. Parce que l'irascible, il est toujours un tout petit peu dans rouge, feu, c'est toujours un peu le dragon. Il n'est jamais satisfait. Vous n'êtes jamais satisfait du côté des irascibles. C'est très important pour nous de saisir cela. Eh bien, l'étude de l'éthique nous fait comprendre cette émergence merveilleuse de l'amour spirituel. L'éthique, c'est étudier toutes les demeures de l'amour spirituel. Auprès du Père, il y a beaucoup de demeures. Et dans l'image de Dieu qui est en nous, il y a beaucoup de demeures. Alors vous étudiez les demeures de l'amour spirituel. Et vous comprenez que ces demeures de l'amour spirituel, c'est toujours un au-delà du psychisme. Un au-delà des passions et de l'imaginaire. Tant que vous restez dans l'imaginaire et les passions, vous êtes en dessous de l'image de Dieu. C'est pas l'image de Dieu. Morale sans péché, démarre. C'est très significatif. Parce qu'au niveau purement psychologique, au niveau purement psychisme, il n'y a pas de péché. Ça ne veut pas dire que vous êtes innocent. Oh, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas l'innocence. Morale sans péché, c'est pas l'innocence. C'est tout simplement qu'il n'y a pas d'émergence du volontaire. L'émergence du volontaire ne s'est pas encore fait. Et vous êtes dans le psychisme passionnel du concupiscible et l'irascible. Il faut qu'on arrive à saisir cela avec beaucoup de lucidité et beaucoup de simplicité. C'est nécessaire et c'est important pour nous d'arriver à saisir cela. Alors, toute l'éthique doit être pour nous constamment cette étude de cette émergence de l'amour spirituel. C'est ce que nous avons essayé de faire. Il y a beaucoup de demeures. Première demeure. La demeure fondamentale et première, à partir de l'amour d'amitié, à partir d'une expérience vécue de l'amour spirituel dans ce qu'il a de plus fort, l'amour d'amitié, un amour réciproque, nous découvrons qu'il y a nécessairement un premier amour. Un premier amour au-delà de la liberté. Un premier amour qui naît
parce que l'amour n'a pas de naissance. C'est ça qui est plus extraordinaire. Là, Platon n'a pas saisi. Parce que l'amour n'a pas d'essence. L'amour naît avec la finalité. Et la finalité est au-delà de la naissance. C'est très curieux, ça. Et c'est intéressant à voir. Le mythe de la naissance de l'amour, c'est un mythe. C'est très beau, c'est très séduisant, mais c'est un mythe. L'amour, c'est directement le bien qui nous attire. Le bien qui nous attire, c'est la finalité. La finalité, ce n'est pas le devenir. La finalité, ce n'est pas la cause efficiente. La finalité est au-delà de tout devenir. Quand vous aimez, vous n'êtes pas dans le devenir. Vous aimez. Alors c'est très glorieux de voir ça. Que l'amour n'a pas de naissance. Que l'amour spirituel, il a cette chose étonnante que tout de suite il s'impose comme un absolu. Tout de suite, le devenir ne s'impose jamais comme un absolu. Alors, y a-t-il des naissances de la passion? Si l'amour spirituel n'a pas de naissance, il ne naît pas. Il est tout de suite finalisé. Donc il n'a pas de devenir. C'est extraordinaire, ça, du reste. Il est au-delà du devenir. Il est métaphysique. Hein, vous voyez dans quel sens? Il est au-dessus. Métagénésis. Au-dessus du devenir. L'amour spirituel, c'est la finalité qui s'implante en moi. C'est le bien qui m'attire, c'est le bien qui me saisit, qui me prend, subitement. Et quand j'en prends conscience, ben oui, il est installé en moi. Il n'a pas demandé de permission. Non, il est installé. Il a pris possession de mon cœur. Extraordinaire, ça. Toute porte est enfermée. Il a pris possession de mon cœur. Et je m'en aperçois quand il est là. Alors, je peux me poser la question, vous voyez, d'un point de vue éthique, je peux me poser la question, est-ce que la passion implique une naissance? Autrement dit, le mythe de Platon, est-ce que c'est le mythe de Eros passionnel. Ou est-ce que je dois dire que tout amour en tant qu'amour n'a pas de devenir? Je crois qu'on doit dire que tout amour en tant qu'amour n'a pas de devenir. Mais la passion, en tant qu'elle a ce mode particulier d'être un amour passionnel, c'est-à-dire un amour sensible, dans la mesure même où la passion est liée au corps, puisque la passion est organique, elle est liée au corps, elle est liée à l'imaginaire, dans la mesure où elle est sensible, alors elle a un devenir, et elle a une naissance. Je peux comprendre la naissance de la passion en moi, mais pas de l'amour spirituel. Ça nous aide à mieux comprendre, voyez, la différence entre cet amour spirituel et l'aspect passionnel qui est en moi. La passion, je peux dire, oui, elle est née à tel moment. Oh, il y a eu ce regard sur moi, à partir de là, je dis, ça y est, vous savez, c'est... l'amour foudroyant, l'éclair qui descend, puis alors le coup de tonnerre après. Mais c'est d'abord l'amour, c'est l'amour passionnel qui naît. Alors, je ne regarde pas ici l'amour passionnel, hein, mais c'est important de comprendre l'amour passionnel. C'est capital. Il faut que tous nous réfléchissions sur ce que c'est que la passion. Et nous comprenions que les passions sont dialectiques, parce qu'elles sont en devenir. Elles sont toujours en face de contraires. Et les deux contraires de la naissance de l'amour passionnel, Platon le voit, la surabondance et la pauvreté. Et je crois que c'est très juste alors, c'est les deux contraires de tout amour passionnel. Tout amour passionnel implique une surabondance, c'est pour ça que ça m'enivre. L'amour passionnel naît dans l'ivresse, hein, faut pas l'oublier, ça naît dans l'ivresse. Le mythe de Platon. Et l'amour passionnel naît dans la pauvreté. Une terrasse séchée qui pendant très longtemps a été uniquement au niveau moral. Subitement, il y a un grand feu. L'amour passionnel. La petite étincelle qui brûle. Mais c'est pas étonnant. Il y avait une telle sécheresse. Telle surabondance. Alors les deux unis font la naissance de la passion. Le banquet. C'est très beau, hein. Le mythe de la naissance de l'amour. C'est très étonnant. C'est la naissance de l'amour passionnel. Alors pour nous, l'amour passionnel n'est jamais à l'état pur. Il est toujours lié à un amour spirituel. Mais il demeure dans sa génésis, dans sa naissance, dans son devenir. Il demeure passionnel. L'amour spirituel, lui, il est né d'en haut. Et vous ne savez pas, il n'y a pas de naissance. C'est la finalité. C'est le bien qui prend possession de mon cœur. Alors, dans la mesure où il est lié à la passion, je peux dire, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé de sentir mon amour. Ah oui, mais l'amour était déjà là. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà découvert. Tu ne me chercherais pas si je n'étais pas là déjà présent. On peut dire ça. Tu découvres cet amour, mais il était déjà là présent. Parce que l'amour spirituel, lui, est au-delà de la génésis. Il est au-delà du devenir. C'est le bien qui prend possession de mon cœur, de ma volonté, de mon appétit spirituel, de mon premier amour, que je découvre, que je mets en pleine lumière. Et c'est un absolu. Cet absolu, je peux l'accepter ou je peux l'offrir, le dépasser. La liberté vient juste après. Cet amour s'impose à moi au-delà de la liberté. C'est très curieux. Et c'est très important de comprendre ça. Je ne suis pas libre à l'égard de cet amour. Et ça, c'est tellement important. Parce que ça fait comprendre qu'on est au-delà de l'aspect moral. Il y a un fondement de la morale qui est cet amour spirituel. Et cet amour spirituel n'est pas moral. Il ne faut pas le moraliser. Si on le moralise, on ne comprend rien à l'amour. Il est au-delà. Je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Ensuite, nous voyons ce passage si important, cette autre demeure, les demeures de l'amour. Cette autre demeure qui est le passage de cet amour qui s'est imposé à moi comme absolu. Je l'accepte. et du fait même que je l'accepte, il va polariser, finaliser toutes mes énergies. Je suis saisi, je suis mobilisé pour faire que ce bien de cette personne qui m'a saisi, qui a suscité en moi cet amour, cette personne devient la fin de ma vie. Elle me finalise. Et quand je dis ça, je veux dire qu'elle mobilise en moi toutes mes énergies. Toutes mes énergies sont polarisées par ça. Elle les était déjà au niveau de l'amour, mais là elles le sont consciemment. Et j'organise toute ma vie en fonction de cette intention de vie. C'est ça qu'on appelle l'intention. L'intention, c'est une forme d'amour parfaitement acceptée et librement acceptée. Alors, a cette capacité de d'ordonner en moi toutes mes capacités, d'ordonner en moi toutes mes virtualités. C'est un moment très important, la différence entre l'amour absolu et puis l'intention. C'est deux choses tout à fait différentes. Dans l'intention, l'intelligence qui ordonne est au service de l'amour. Dans ce premier amour, l'intelligence est présente puisque je connais le bien, mais je ne me sers pas de l'intelligence. L'amour dépasse pour s'imposer comme absolu. C'est pour ça que ce premier amour est aveugle. Mais aveugle, comprenez bien, il est aveugle en ce sens qu'il dépasse toute l'intelligence. Et c'est en ce sens-là qu'il s'impose comme absolu. Et c'est en ce sens-là qu'il s'impose comme absolu et comme nécessaire. Je ne peux pas ne pas aimer. Oui, mais vous pouvez faire que cet amour devienne l'intention de votre vie. Au contraire, que cet amour ne soit pas l'intention de votre vie. Le passage du bien à la fin. Le passage du bien à la fin. Ceci permet de distinguer ces deux demeures dans ma volonté, dans mon cœur profond. Mon cœur profond implique les deux. La volonté et capacité d'aimer. La volonté et capacité d'ordonner toute ma vie. L'amour ordonne, grâce à l'intelligence, toutes mes possibilités. Vous voyez, c'est là où il peut y avoir des conflits. On comprend très bien. Quand il y a deux amours qui s'imposent, alors lequel sera-t-il l'intention? Alors je pourrais subordonner un amour à un autre. Oui. Je peux subordonner. Je peux considérer qu'il y a intention de vie de telle manière et qu'il peut y avoir une autre intention qui sera subordonnée à la première. Troisième moment, étant donné que il y a un hiatus entre l'amour qui est vécu intentionnellement au point de départ comme absolu et la réalité du bien qui m'attire. Le bien m'attire et parce qu'il m'attire, il veut que je sois conjoint à ce bien, que je sois lié, non seulement affectivement, mais réellement. La question de la présence, une présence qui ne soit pas seulement seulement affective, mais réelle. Voyez, cette prise de conscience dans l'intention, c'est dans l'intention qu'est cette prise de conscience, pas dans l'amour. L'amour, il est amour. Il ne cherche pas à distinguer l'intentionnalité du réel. Parce que d'une certaine manière, l'amour est plus réel que tout le reste. C'est vrai, quand on aime, on aime. Puis c'est tout. Tandis que lorsqu'il y a l'intention, l'intelligence intervient. Et l'intelligence fait la distinction entre être uni intentionnellement et être uni réellement. Ça, c'est une distinction de l'intelligence. C'est pas une distinction de l'amour. L'amour est au-dessus. Et c'est l'intelligence qui fait cette distinction. Vous voyez, c'est le réalisme de l'intelligence au service du réalisme de l'amour. Ce sont des deux réalismes qui se conjoignent pour comprendre que, de fait, le bien qui est un, qui est ma fin, n'est pas encore le bien que je possède, le bien qui m'est donné et dont je peux jouir.
Quelqu'un qui se met à réfléchir n'arrive plus à choisir.
dit en Suisse, il faut se fréquenter longuement. Alors, à la place de se marier à 30 ans, se marier à 35 ans. C'est la même chose pour la vocation religieuse. Quand on entre jeune, et dès qu'on entre jeune, mais tout de suite, le lendemain d'entrée, donnez-moi l'habit, permettez-moi de faire des vœux, et des vœux pour l'éternité. Parce qu'on est amoureux. Et alors, la passion est ça. Dès qu'on entre un peu plus âgé, avec un peu plus d'expérience, ou quelquefois pas plus âgé, mais avec plus d'expérience, on dit, attention, oui, entrez en communauté, prise d'habit, chaque fois il y a un choix, profession, on va se ligoter, pas drôle, l'habit à la rigueur, mais la profession, on se ligote à des moyens. Et ces moyens, c'est quand même terrible, ça limite, ça nous enlève la liberté. On voudrait tellement être libre, puisque l'amour nous libère. Et ces moyens nous déterminent. Et ces moyens font passer l'amour intentionnel, l'union intentionnelle à l'union réelle. Mais l'imagination est là pour nous faire croire que l'union affective, intentionnelle, a l'immense avantage de ne rien limiter. Et qu'il faut beaucoup mieux ne rien limiter que de choisir qui limite. Puis alors la profession perpétuelle a un choix qui détermine. C'est très très important de réfléchir sur les obstacles de cette emprise de l'intelligence sur l'amour. Et quand je dis l'emprise de l'intelligence sur l'amour, c'est pour permettre à l'amour d'être plus lucide et donc d'être plus amour. L'intelligence est au service de l'amour en éthique. L'intelligence est au service de l'amour. Et donc l'intelligence doit permettre à l'amour d'aller le plus loin possible. Et non pas du tout d'arrêter ou de mesurer l'amour. Si l'intelligence arrête l'amour, alors c'est pour dire non, il vaut mieux prendre une autre voie. Alors là, l'intelligence, vous voyez, dans la liberté, le libre arbitre, c'est très important de comprendre ce que c'est que le libre arbitre. Le libre arbitre, il n'existe pas. C'est l'intelligence qui l'a façonné, ça. Qu'est-ce qu'il existe? Il existe une intelligence au service de l'amour. Alors, le libre arbitre, à quel moment, au plan philosophique, est né le libre arbitre? C'est une question qui m'a été posée l'autre jour. Vous avez dans Saint-Augustin un petit livre des libro arbitriaux qui est très intéressant. Saint-Augustin. Est-ce qu'en philosophie grecque on parle du libre arbitre? Ou est-ce que c'est une question de théologien? Ça, c'est très intéressant de se poser la question. Est-ce que les stoïciens se sont posé la question du libre arbitre? Comment ça se dit en grec? Saint Augustin parle latin. C'est le grand-père latin, Saint Augustin. C'est pas le grand-père grec. C'est le grand-père latin. Africain. Et latin. L'Afrique est latine. Faut pas l'oublier. La Grèce est Grèce. C'est très curieux de voir, est-ce qu'en grec, on dit libre arbitre? J'ai cherché dans ces piques têtes. On parle de proairesis. On parle d'élection. Et d'élection qui nous donne cette liberté. Je crois que c'est né en théologie.